Bonjour, nous allons faire deux lectures dans la parole de Dieu. Premièrement, dans Proverbe 28, au verset 15, « Qui cache ses fautes ne réussit pas. Qui les avoue et s'en détourne obtiendra miséricorde. » Et puis, un autre passage dans Jacques, au chapitre 5, verset 13, ça s'adresse aux chrétiens. L'un de vous se porte-t-il mal? Qu'il prie. Un autre va bien? Qu'il chante le Seigneur. Un de vous est malade? Qu'il appelle les anciens en fonction dans l'église. Ils prieront sur lui après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Amen. Voilà, je ne suis pas en train de dire, et la Bible n'est pas en train de dire, que toutes les maladies que vous pouvez avoir sont dues au fait que vous avez péché. D'accord? Mais il est quand même clair ici que c'est bon de confesser nos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. Je vais continuer mon enseignement au sujet des entités qui se nourrissent de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de nos intentions. Et je prie que Dieu ajoute sa bénédiction à la parole que je vais vous apporter maintenant. Je vous disais dimanche passé que nous devons lire la Bible et le livre de la nature pour bien comprendre ce qui se passe en nous et en dehors de nous. Cette façon de faire, elle porte un nom. Ça s'appelle la loi de l'analogie. Alors, il nous faut observer, ça veut dire qu'il faut qu'on observe la nature et les Saintes Écritures, et par la loi de l'analogie, on interprète ce qui se passe dans notre existence. Le mot analogie, ça signifie tout simplement le rapport de ressemblance que présentent deux ou plusieurs choses ou personnes. Donc, vous regardez dans la Bible, ensuite vous regardez dans la nature, et vous voyez les choses comme elles se ressemblent, et vous pouvez commencer à étudier ce qui se passe dans votre vie par rapport à toutes ces choses-là. C'est toute une science. Si vous ne savez pas vous préparer consciemment pour tout purifier, je parle à des gens qui ont déjà écouté la prédication de dimanche passé, hein, qui savent de quoi je parle. Si vous ne savez pas préparer, vous préparez vous-même consciemment pour tout purifier, eh bien, vous laissez simplement la nature prendre le dessus en vous, et la nature entière a été placée sous l'esclavage du mal, on le sait. Elle soupire, n'est-ce pas, elle soupire. La nature souffre, les douleurs de l'enfantement, elle est dans ce processus du mal, de la destruction. Et si vous laissez faire les choses sans appliquer votre savoir, eh bien, et votre volonté, c'est la nature va prendre le dessus, c'est-à-dire c'est comme si on ne passe jamais la tondeuse dans notre parc, par exemple. Eh bien, ce ne serait plus un parc, ça serait, je ne sais pas quoi, une horreur. Vous avez le devoir de vous purifier, de veiller à ce que vous pensez, d'entretenir en vous des bons sentiments. Alors, Jésus est notre maître, et un maître, il a un enseignement. C'est pas simplement il y a pas simplement des commandements, il y a un enseignement. Un disciple de Jésus, il doit apprendre. Et la lecture des Saintes Écritures, ajoutée avec la lecture de la nature, puisque dans la nature, on voit l'œuvre de Dieu, tout ce qui est invisible au sujet de Dieu est visible dans la nature. C'est-à-dire que on peut faire des rapprochements quand on voit ce qui se passe dans la nature. Eh bien, la lecture des Saintes Écritures et du livre de la nature nuisent considérablement à l'ignorance. Pourquoi l'ignorance devrait-elle présider partout? Les humains ne cherchent que le plaisir sans savoir qu'ils invitent en faisant cela toutes sortes d'entités inférieures et puis qu'ils les nourrissent à leurs dépens. Ils ne savent pas, ils continuent. Si les humains étaient plus éclairés, s'ils cherchaient la lumière, ils cherchent pas, ils aiment pas. S'ils cherchaient la lumière les conseillerait de préparer un bon festin pour elle. Mais non, ils veulent rien savoir et ils se plaisent en quelque sorte dans leurs inconfortables ténèbres et ils attirent à eux des entités inférieures et ils croient même pas en ce que je dis là. Quand un chrétien obéit de cœur, quand un chrétien obéit de cœur aux lois et aux ordonnances de Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Il prépare un festin pour les anges. Les anges sont les serviteurs de Dieu qui viennent aider, n'est-ce pas, les uns et les autres, mais ils sont obligés de fuir même la présence de certains chrétiens. Quand un chrétien est gentil, quand un chrétien est généreux, quand un chrétien est désintéressé et qu'il est positif et qu'il est consciencieux, qu'il est conciliant, etc., etc., il prépare un véritable festin pour les anges, ça les attire. Quand on offre un festin aux anges, ils viennent et ils viennent avec des cadeaux. On reçoit plus que ce qu'on donne et on ne subit pas de pertes. Au contraire, on reçoit des forces, on reçoit des finances, on reçoit des révélations, on est renouvelé, on est fortifié, parce que les anges ne viennent pas les mains vides, ils viennent avec des cadeaux, avec des dons de Dieu. Vous voyez, il faut savoir qui inviter et qui ne pas inviter. Une fois qu'on a invité des indésirables, les démons, les entités nuisibles, ténébreuses, les esprits de mort, ben c'est très difficile de s'en débarrasser. On voit souvent des chrétiens qui chassent des indésirables. Oh non, Jésus, ils crient comme ça, soit. Et puis il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que s'adresser à ces entités au nom de Jésus, ça n'a rien à voir avec la magie. Hein, vous avez tous vu ces films où le sorcier diable, racadabra, et puis alors hop, là, il y a un grand éclair qui sort, et puis voilà, avec ça, c'est pas parce que vous dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est pas abracadabra. C'est pas un mot magique. Il est nécessaire d'avoir un savoir, une connaissance. Premièrement, il est nécessaire que la personne qui est infestée par des indésirables, qui est soit possédée ou obsédée ou liée, tourmentée par des indésirables, il faut qu'elle confesse ses péchés, ses ressentiments, sa jalousie, ses colères, ses haines, enfin, qu'elle parle à quelqu'un. Alors on dit, oui, mais les catholiques, la confession des péchés, la l'air, et nous... oui, mais les protestants ont trop rejeté. C'est écrit à confesser vos péchés les uns aux autres, pas forcément à un prêtre qui a fait des études pendant 50 ans dans un séminaire. Non, non, les uns aux autres, parce que nous sommes tous prêtres. Hein, je voulais enseigner ça. On a tous le pouvoir de pardonner au nom du Seigneur. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Les péchés que vous retiendrez seront retenus. Ceux que vous ne retiendrez pas seront, etc. que vous connaissez. Bref, donc, il faut qu'elle avoue avoir préparé des festins pour les mauvais esprits. Et ces mauvais esprits ont été attirés parce que c'était des personnes qui étaient remplies de rage, de colère, peut-être justifiées, mais on n'a pas à, on doit déposer ça au pied de la croix tout de suite quand ça vient. Il faut qu'elles avouent et qu'elles désirent réellement délaisser ces mauvais comportements, hein, comme c'est écrit, celui qui avoue et délaisse, alors il est délivré. Proverbe 28:13 qu'on a lu au début. Tout ça, ça demande un travail qui peut être considérablement difficile. Efficace, oui, mais difficile. Alors les chrétiens, dans les églises, je ne sais pas maintenant, mais dans les années 70-80, on appelait ça faire de la cure d'âme, c'est-à-dire chercher à savoir d'où pourrait venir le problème. Il faut... Je pense que c'est tellement difficile quand on en arrive là, c'est terrible. Pourquoi il faut, c'est le mieux, ça serait de veiller à ne pas attirer les indésirables. Alors, bon, maintenant, quels sont les moyens pour ne pas les attirer? Premièrement, c'est la pureté. La pureté sur tous les plans, corps, âme, esprit. La pureté, ça a un effet terrible sur les indésirables. Sur les esprits des morts, les démons, les esprits déchus, tout ça. La pureté, ça les fait mourir de faim. Ça les fait mourir de faim. Parce que dans la pureté, il n'y a aucune nourriture pour eux. Ça les dégoûte. Hein, la lumière, ça les brûle. Les sentiments nobles, ça leur est insupportable. La foi et l'amour, ça les fait vomir. La patience, ça les exaspère. Alors ils fuient. Bref, tout ce qui est bon, ça les rend malades. Alors entretenez de bonnes choses dans vos pensées. Déjà, premièrement, dans vos intentions, dans le cinéma que vous vous faites à l'intérieur, là. Tous ces dialogues que vous entretenez en vous-même. Ne préparez pas des festins pour les indésirables. Maintenant, quand je dis la lumière les brûle, bon, c'est, la lumière c'est symbolique, hein, il ne suffit pas simplement d'allumer la lumière. Hein. Quand je parle de la lumière, c'est de la connaissance, c'est de la sagesse, c'est une bonne compréhension des choses. Hein. C'est tout ce qui nous permet de discerner les dangers, quand on les voit venir de loin. C'est ça, n'est-ce pas, la lumière, ça éclaire sur notre chemin. La pureté, ben, ce sont les efforts que vous menez pour avoir une vie exemplaire dans tous les domaines. Pour, hein. Alors, quand vous êtes ainsi dans la lumière, si les ténèbres essaient de se faufiler, ils sont rejetés, ils s'en vont d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que toutes les qualités de la pureté, de la sagesse, de l'amour, de l'altruisme, de la bonté, de la générosité, ça les repousse. Ça leur est aussi insupportable que ce serait insupportable pour vous qu'on vous place à table, dans votre assiette, un plat de vomi de porc. Ça les dégoûte. Vous savez, cet enseignement que je vous donne là, c'est nécessaire pour comprendre les lois de la vie. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ces choses-là que les gens sont devenus des victimes, mais en fait, ils ont préparé le festin pour pour attirer ces entités mauvaises qui maintenant les ont domestiquées, comme je vous disais dimanche passé. Cet enseignement démontre clairement qu'un disciple de Jésus ne peut pas, ne doit pas se placer en victime. Quand Jésus nous dit qu'il nous a fait, il nous a tout acquis, tout accompli pour la pleine victoire, c'est vrai, mais c'est à nous de prendre cette victoire. C'est des esprits mauvais qui sont là parce que vous les avez attirés. Ne dites pas que vous êtes victime d'esprits mauvais, c'est pas vrai. Oh, j'y suis pour rien, c'est pas ma faute. Mes grands-parents, mon grand-père était déjà comme ça, hein. Et puis, c'est maintenant les pasteurs ne sont plus, n'ont plus la puissance pour me délivrer. J'ai entendu ça aussi. Bon, alors, par exemple, cette histoire des péchés de nos ancêtres ou de l'hérédité, des gènes et tout ça. Je sais que là encore, les chrétiens vont avoir de la peine à me croire et vont encore dire, voilà, Michel, dans quoi il se lance. Il y a ce qu'on appelle des esprits familiaux. Ce ne sont pas forcément les esprits de vos morts qui vous tourmentent, quoique maintenant, depuis que le quatrième sceau est ouvert, le séjour des morts et la mort se promènent sur la terre pour tourmenter les gens, c'est vrai. Depuis que le quatrième sceau est ouvert, ça fait il n'y a pas longtemps, c'est depuis à peu près une quarantaine d'années, pas tout à fait. Mais ce n'est pas forcément les esprits de vos ancêtres qui viennent vous tourmenter, mais ce sont souvent les esprits qui tourmentaient vos ancêtres qui veulent rester dans votre famille. Par exemple, il y a des esprits artistiques, savants, n'est-ce pas, qui passent dans les familles, qui restent parce que voilà, ils connaissent tout, ils connaissent bien, ils sont habitués, n'est-ce pas. C'est des esprits qui, ou alors vous avez des esprits qui poussent à l'alcoolisme, au suicide. Ils cherchent à vivre dans des corps, ces esprits-là. Et quoi de plus simple que d'élire domicile dans la descendance, où ils ont déjà leurs habitudes. Ce sont des êtres vivants. Ils ont leurs habitudes, ils ont leur goût, ils ont leur hein, leur petit confort, tout ça. Alors c'est ainsi qu'on voit, par exemple, c'est monstrueux, mais on voit des enfants battus, des gens qui, quand ils étaient enfants, ils étaient battus, ils deviennent parents et ils battent leurs enfants. Vous n'êtes jamais posé la question, mais comment ça se fait? Au contraire, ils devraient... Ben non. Il y a aussi des esprits lumineux, des esprits désintéressés, évolués, qui restent dans les familles, et puis qui aiment à rester dans un cadre là où ils ont pris leurs habitudes, hein. Alors, les bons comme les mauvais esprits, ils ont des goûts et des habitudes. Et ils ne cherchent pas la difficulté. S'ils peuvent entrer dans le fiston ou dans la fifille de l'alcoolo ou de service qu'était leur père ou leur grand-père, bah, c'est tellement plus facile, n'est-ce pas? Un esprit qui poussait, par exemple, un grand-père à boire trop d'alcool, tout d'un coup, il se trouve sans logement, il est SDF quand le grand-père meurt. Ben, qu'est-ce qu'il fait, le mauvais esprit? Il dit, ben mince. Alors il va chercher d'abord dans la famille. Il va d'abord chercher dans la famille. Et s'il peut continuer à boire, à s'enivrer au travers de quelqu'un de la famille, là où il a déjà toutes ses habitudes. Mais il ne va pas pouvoir rentrer dans une personne qui ne prépare pas un festin d'alcool. Il ne va pas pouvoir rentrer dans quelqu'un qui prépare un festin de fuite, hein, qui sitôt qu'il a un problème, il va fuir. Par exemple, il va fuir, comme il a vu son père qui fuyait l'alcool, il se dit, oh ben oui, le père, il avait raison, boire un petit coup, ça fait du bien, on oublie les problèmes. Tout ça pour dire que chacun de nous, nous avons notre part de responsabilité. Ne dites pas, je suis alcoolo, parce que dans la famille, mon père était un alcoolo, mon grand-père était un alcoolo, j'ai ça dans les gènes, c'est un mensonge. Dites pas ça, c'est un mensonge. Ce qui est vrai, c'est que enfant, vous avez eu un exemple. Et vous vous servez de cet exemple pour dire, ouais, finalement, allez, mon père, il buvait son petit whisky, son gros whisky, je sais pas, ou sa bibine. Ben, il avait raison, le vieux, ça aide un peu. Le vin réjouit le cœur de l'homme, hein, alléluia. Oui. Et vous choisissez de faire comme votre père, vous fuyez pour fuir un problème, ou simplement pour affronter votre problème, votre difficulté, votre mari, votre femme, vos enfants, vos factures, ou pour vous donner du courage. Hein. L'autre jour, il y a un type qui a dit, pour aller passer mon permis, j'ai bu un coup. Pour me donner du courage. Il a été arrêté avant même d'avoir son permis, ils l'ont enlevé. C'est dramatique, hein, pour se donner du courage. Alors, vous n'allez jamais rien gagner en cédant à ces esprits-là. Au contraire, vous allez tout perdre. Ils vivent à vos dépens. Ces esprits vivent à vos dépens. Alors, vous avez vu votre père, votre grand-père qui boit, vous avez été frappé alors que vous étiez enfant, vous avez été impressionné par ça, vous étiez tendre, et plutôt que de vous élever au-dessus de ça pour faire autrement, vous vous êtes laissé influencer. C'est votre choix. Ne mettez pas la faute sur vos ancêtres. Alors, comment chasser ces entités? Si je pose la question dans une église, je sais ce qu'on va me dire. Comment il faut chasser ces entités? Tout le monde va crier « Au nom de Jésus !» Oui, au nom de Jésus, bien sûr, c'est juste, mais pas complètement. Pas de la magie. On ne dit pas, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Frères et sœurs, écoutez bien. Vous devez parler à ces entités. Pas parler avec elles, mais leur parler. Prendre la parole et leur dire ce que vous savez à leur sujet. Les dévoiler. Dites-leur que vous savez qu'elles sont là. Que vous n'êtes pas insultant à leur sujet, mais vous savez qu'elles vous entendent. Et puis, prenez la Bible et lisez l'histoire du démoniaque de Gadara, par exemple. C'est une très bonne histoire, elles n'aiment pas cette histoire-là. Mais vous pouvez leur parler de ça et leur montrer dans la Bible, vous leur dites, voilà, vous parlez et vous dites. Et de toute façon, elles n'ont pas trois possibilités. Et donc, deux. Vous allez les envoyer soit dans l'abîme, ou alors, vous allez les envoyer dans le cochon qui est le plus proche, là, géographiquement parlant. Et vous leur dites ça, ferme, clair. Je sais, j'ai pris dans la Bible, je sais que c'est comme ça. Je te donne deux possibilités. Les démons ont prié Jésus. Nous envoie pas dans l'abîme, envoie-nous plutôt dans les cochons. Jésus les a envoyés dans le cochon, les cochons sont suicidés. Donc ils ont quand même bel et bien fini dans l'abîme. Dites-leur que vous savez. Lisez-leur le texte qui leur montre leur infériorité par rapport à vous. Que tout est soumis au nom de Jésus-Christ. Que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, qu'elles doivent vous obéir et qu'elles ne peuvent que vous obéir parce que vous êtes là en tant que prêtre au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a payé le prix pour que vous et ceux qui sont liés par ces esprits-là puissent être débarrassés. Parlez-leur. Je me rappelle toujours, j'étais jeune pasteur, enfin j'étais stagiaire à l'époque, c'était à Lausanne, et puis je faisais les réunions de prière, et puis il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, et puis un soir, la femme du pasteur, je ne veux pas la nommer parce que bon, elle vient vers moi, elle me dit « Michel, j'ai entendu ce que vous faites. Vous travaillez avec le démon ? Je dis, quoi ? Comment ? Et elle dit, j'ai entendu, il parle au démon. Alors son mari, qui était quand même un petit peu plus évolué, lui dit, mais tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. Bien sûr qu'il parle au démon. La Bible dit qu'il faut leur parler, qu'il faut les chasser, qu'il faut leur... bien sûr, il parle pas avec, il leur parle avec autorité. Et il a raison, Michel, t'as raison, continue, fais comme ça. Elle n'avait pas très bien compris la chose. Elle demandait à Jésus de faire le boulot, alors que Jésus a dit, allez, faites-le, chassez les démons. Je crois absolument dans ces choses, je les ai expérimentées. Et puis, vous avez intérêt, vous, à y croire, sinon vous n'améliorerez jamais votre situation, jamais. Vous serez roulé dans la farine. Ces entités, elles existent vraiment. Alors, certains de ces entités mauvaises, hein, je parle là des entités mauvaises qu'on chasse, elles sont évoluées, plus ou moins intelligentes. Il y en a qui sont plus intelligentes que vous. Ah, si, si, il y a des démons plus intelligents que vous. Il y en a qui sont compréhensifs. Et puis, il y en a d'autres qui sont obstinés, qui sont idiots, qui vont vous tenir tête, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai, non, c'est faux, ils sont petits. Certaines de ces entités sont vraiment idiotes, même, elles ne comprennent rien. Rien. C'est un peu comme chez les gens, vous avez des gens qui sont bêtes, puis vous avez des gens... Il y a de tout dans le monde des esprits. Alors, dans ce cas-là, vous demandez au Père, au nom de Jésus-Christ, vous ne demandez pas à Jésus au nom de Jésus, ça ne veut rien dire. Vous demandez au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les anges viennent en vous pour lutter à votre place. Ne luttez pas vous-même. Eux, ils sont capables de lutter. Ils ont tous les moyens, toutes les armes pour lutter. Vous allez me dire, oui, mais nous, on a les armes de Dieu. Oui. Bien sûr qu'on a les armes de Dieu. Mais vous allez avoir affaire, de temps en temps, à des esprits qui sont vraiment forts. Alors là, vous avez intérêt à utiliser les plus grandes armes, c'est-à-dire ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Notre arme la plus puissante dans ce cas-là, eh bien, c'est de contre ces esprits, ces entités obtus. Là, votre meilleure arme, c'est la collaboration avec les anges. On parle dans les milieux chrétiens. Alors, on parle des démons, les démons, les démons, les démons. Mais les anges, le ministère des anges, qui c'est qui parle de ça? Michel, les anges. Au 21e siècle. Hein? Je vais terminer ce soir là-dessus en vous disant que plutôt que de chercher à savoir comment chasser les indésirables, il vaut mieux se préoccuper de ne pas les attirer et d'enseigner cela aux gens, enseigner cela aux enfants. Dites-leur de faire attention à leurs pensées, à leurs sentiments, à leurs émotions, de garder toujours ça dans un niveau de pureté, d'honnêteté, de bonté, de générosité. Plutôt que de chercher à savoir comment les chasser, apprenez plutôt à ne pas les attirer, à ne pas leur donner de nourriture pour qu'ils viennent se repaître chez vous. Ça, c'est le plus important. Dans ce monde, et en nous-mêmes, il y a toutes sortes d'énergies. La Bible dit « Dieu est lumière ». La lumière, c'est de l'énergie. Les esprits sont de l'énergie, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas des personnes, mais ils sont énergiques, il y a de la force, il y a toutes sortes de forces. La plupart des gens dans ce monde ne mesurent pas combien ces énergies sont précieuses. Dieu a mis sur cette terre des énergies précieuses et l'homme... Et alors ça vaut dans les choses de la nature, mais ça vaut aussi dans le monde des esprits. Les gens gaspillent l'énergie sans se poser des questions sur l'origine de ces énergies, ni sur le travail que la nature a fait pour préparer toutes ces énergies, pour nous les donner. On agit n'importe comment, à tort, à travers, et dans les milieux chrétiens aussi. Tiens, tout à l'heure, je disais, combien de fois j'entends « Seigneur Jésus, je te prie au nom de Jésus !» Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est du désordre. Jésus nous enseigne bien comment il faut prier le Père en son nom. Ou, des fois, d'autres fois, comment chasser les mauvais esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ces amusements, toutes ces colères, tous ces excès, toutes ces activités égoïstes et criminelles, c'est autant de preuves que l'homme ne sait pas apprécier les richesses qu'il a reçues de la part du Créateur. Et l'homme utilise toutes ses énergies pour alimenter des êtres infernaux. Dieu tiendra l'homme pour responsable. Alors c'est vrai que l'homme est de plus en plus instruit dans toutes sortes de sciences, c'est vrai, mais ils lisent pas la parole de Dieu. Ils ne savent rien de leur responsabilité dans l'utilisation de ces énergies. Et puis c'est pas dans leurs universités qu'ils vont apprendre ça, on va pas leur enseigner ça dans les universités. Alors vous, qui venez écouter Révélation Bible, prenez ce que je vous donne, c'est une nourriture pour enfants de Dieu. Les anges vont aimer le festin que vous allez leur préparer si vous vous mettez à croire ces choses. Et ils vont venir à votre aide, vraiment. Vraiment. Regardez, Jésus a eu besoin d'eux. Jésus lui-même. Combien de fois? Relisez les Écritures. Ne demandez pas, ne priez pas les anges, mais demandez à Dieu qu'il vous envoie des anges. Mais ils ne viendront pas si ça pue chez vous. Il faut d'abord que vous confessiez vos fautes, que vous confessiez vos péchés, et alors là, à ce moment-là, les choses commencent à s'établir et la guérison s'installe. Voilà, Dieu voulant, je reviendrai sur ce sujet. J'ai eu pas mal de réactions suite à la prédication de dimanche, et si Dieu me le montre, eh bien je continuerai dans ses enseignements pendant quelques temps. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Prions d'abord. Jésus, je te prie, mon Dieu, d'éclairer chacun, d'éclairer les personnes qui écoutent cela. Pourquoi est-ce que ça serait l'ignorance qui régnerait, mon Dieu? Il y a des gens qui veulent se discipliner, qui veulent apprendre. Je te demande, Père, qu'ils aient l'intelligence de mettre en pratique ces choses afin de voir qu'elles sont vraies. Merci, mon Dieu. Amen. Soyez bénis. Au revoir.